Dans la première lecture, nous voyons l'arrivée du peuple de Dieu dans la terre promise. Conduit par Josué, Josué, Yeshua, Jésus, évidemment c'est la même racine. Mais cette entrée dans la terre promise n'a pas été un long fleuve tranquille, je veux dire, ce passage de l'esclavage en Égypte jusqu'à la liberté dans la terre promise, cet exode, a été aussi le lieu du combat spirituel. Et il y a eu plusieurs combats durant ces années, et entre autres la crise des oignons d'Égypte. La crise des oignons d'Égypte, c'est quoi ? C'est de dire, au fond, quand on était en esclavage, on avait là-bas en Égypte, on avait des oignons, on avait des tomates, on avait ceci, on avait ça. Là, on n'a que de la manne, ça a le même goût, etc. La manne pendant 40 ans, quelques cailles comme ça. Bon, mais il y a une sorte de râlerie. On préférait le temps de l'esclavage, mais on avait des compensations à l'esclavage. Et puis aussi, ce n'est pas, si c'est Moïse qui a fait sortir le peuple d'Égypte, ce n'est pas lui qui a fait entrer le peuple en terre promise. Vous le remarquez, c'est assez intéressant, c'est une purification, parce qu'aussi, lui, il a eu son moment de révolte. Et c'est intéressant, si on ne parle pas de terre explicitement dans l'Évangile, on parle au moins d'héritage. Et on peut supposer que pendant, dans cet héritage, dans l'avoir du Père, il pouvait y avoir des terres aussi. Et on voit bien que dans la figure du fils prodigue, celui qui dépense tout, etc., il y a cette manière aussi de dire « loin de Dieu, je suis mieux ». Loin de Dieu, je suis mieux. Et cette tentation, c'est un combat spirituel. De voir le lien avec le Seigneur, qui est un lien d'amour, mais qui est un lien aussi de dépendance d'amour, de le voir comme une menace. Et donc, voilà, donne-moi la part d'héritage qui me revient, c'est-à-dire, quand on demande l'héritage à quelqu'un, c'est qu'on le considère comme mort, parce que, en général, c'est à la mort du parent que l'héritage nous est donné. Et donc, voilà, il part avec son héritage. Il a cette crise-là, intérieure, extraordinaire, et puis, c'est la descente. La descente aux enfers, ensuite il va jusqu'à manger avec les porcs et garder les porcs, etc. Mais il aimerait bien se remplir le ventre de toutes les caroubes, des gousses que mangeaient les porcs. Voilà. Il arrive loin de Dieu et au fond, c'est cette désolation. Cette désolation qui fait que je pensais que loin de Dieu, loin de mon Père, c'était mieux. Et là, j'arrive dans une forme d'abandon, c'est une sorte de SDF, je vais dire. Il est complètement à l'abandon, cet homme-là, il est complètement... Et là, vous avez le tableau de Rembrandt en tête, hein. Vous vous rappelez le tableau de Rembrandt, etc., avec cet homme en guenille, complètement décharné, hein, à genoux devant son père, la tête dans ses entrailles, parce que miséricorde, c'est entrailles, c'est pareil, voilà, c'est très fort, ça, c'est un excellent tableau, hein. On l'a tous en tête. Hein, voilà. Et puis, à un moment donné, il y a un retour. Il y a un retour intérieur. Il y a un retour intérieur qui est mu par le ventre. Donc, ce n'est pas quand même des choses hautement spirituelles qui sont à l'occasion de ce retour. Et il se fait un discours intérieur, le fameux fils prodigue. Il se fait un discours intérieur et se dit, voilà, c'est un peu comme quand... si vous faites votre déclaration d'amour à votre belle, etc., vous dites « je vais lui dire ceci », etc. Quand vous voulez demander une augmentation à votre patron, ben, du coup, vous faites tout un discours intérieur, et il me répondra ça, et je lui dirai ça, etc., etc. Bon, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le discours intérieur. Et il se fait un discours, c'est intéressant de voir le discours intérieur qu'il y a, parce que, entre le discours qui s'est fait et ce qu'il dit, c'est pas pareil. Vous avez remarqué, ce n'est pas pareil les deux choses. Le discours qui s'est fait, j'irai vers mon Père, voilà, je ne suis plus, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et qu'est-ce qu'il dit ? Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, et là, coupé. Le Père ne lui laisse pas dire, traite-moi comme l'un de tes ouvriers, parce que tu restes fils. Quoi qu'il advienne, on fait la différence entre le pécheur et le péché. Tu restes fils. Et ensuite, c'est les noces. Et voilà. Mais c'est très beau de voir cette. Il y a quelque chose en nous que le mal ne peut pas atteindre. Si la ressemblance de Dieu est au rendez-vous ou pas, mais l'image de Dieu, elle est inatteignable. Et c'est très rassurant. Rien, ni même nous-mêmes, ne peut atteindre en nous l'image de Dieu. Et alors on voit toutes les... De façon, c'est une parabole, hein, c'est le beau vêtement, c'est-à-dire il revient dans l'alliance, la bague c'est vraiment l'alliance aussi, il est de la famille, il a le sceau familial, je ne sais pas, il a le vêtement de fête, il est sandal au pied, c'est pas un va-nu-pied, il a les sandales, il est le fils de la famille, il est restitué par la miséricorde, hein, dans la famille, dans le lien familial. Et ça, c'est très beau que c'est le pape François qui dit que la miséricorde, c'est un terme qui est mis au mal. La miséricorde, c'est-à-dire le pardon, c'est un terme qui est mis au mal. C'est-à-dire que c'est une limite. Tu n'iras pas plus loin. C'est ça que ça veut dire. Tu ne vas, la personne ne va pas, quelque part, le mal ne va pas dévaster la personne au-delà de la limite que pose la miséricorde. Ce n'est pas un encouragement au mal, c'est un terme, c'est pas plus loin. Alors bon, la fête, etc., ton fils, voilà, il était perdu, il est retrouvé, etc. Et ensuite, il y a l'autre tentation, et les deux sont en nous. Et le fils aîné, et le fils cadet, et le fils prodigue, et celui qui est bien sous tout rapport, les deux sont en nous. Il est dans une grande colère. Et moi, je comprends tellement la colère du fils aîné. Je la comprends tellement. Parce qu'il a vu certainement son vieux père tellement douloureux de, non pas tant de céder son avoir, mais d'être rejeté alors qu'il avait tout chez lui. Hein, c'est ce qu'il dit. Mais est-ce que je n'avais pas de tout chez mon père, du pain en abondance, et ici je meurs de faim. Voilà. Il avait tout. Et il voit son fils partir. Donc le fils aîné, il a vu tout ça. Il a vu tout ça. Il a vu la souffrance du père. Il a vu peut-être les larmes du père, peut-être le père qui guettait, on ne sait pas, le retour du fils, etc. Bon. Il a vu cette souffrance-là. Et lui, peut-être pour compenser, il a dit, voilà, je vais bien tout faire bien. On voit dans des familles comme ça, des personnes qui, par leurs actions, veulent compenser les désordres des autres. Ils veulent devenir des premiers de classe, des bons fils, bonnes filles, voilà, à qui on n'a rien à reprocher. Mais il y a quand même une chose, quand même. Donc on comprend la colère. Parce que la miséricorde, c'est loin d'être évident à accepter. C'est loin d'être évident. Parce qu'il y a quelque chose de scandaleux. Il y a quelque chose de scandaleux dans la miséricorde. Il y a quelque chose de scandaleux. C'est vrai que dans le cas de figure, on peut comprendre cette colère, etc. Et on voit combien, encore aujourd'hui, on a du mal à accepter un pardon, du mal à accepter des amnisties, par exemple, du mal à accepter... vous connaissez peut-être le cas de Jacques Fesch, qui était un prisonnier dans les années 50, etc., qui avait tué un policier et qui a eu une conversion énorme et qui a, voilà, au Christ en prison. Et à un moment donné, il s'est agi de le béatifier. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Les forces de police ont dit, si c'est ça, eh bien nous, on n'assurera plus jamais la sécurité de vos bâtiments religieux. Nous ne voulons pas qu'on montre en exemple fidèle quelqu'un qui a tué un policier. Donc vous voyez que la miséricorde, c'est loin d'être évident. C'est loin d'être évident. Et quand il s'est agi après-guerre de retisser les liens avec l'Allemagne, là aussi, il y a une forme de pardon qu'il a fallu faire pour redémarrer, pour ne pas laisser le mal ternir. Je veux dire, ce n'est pas lui qui peut avoir le dernier mot, mais ça a été loin d'être évident aussi. Donc, je trouve ça intéressant de dire qu'il y a quelque chose. Donc, ne condamnons pas trop vite, j'allais dire, le fils aîné, parce que spontanément, on est plus du côté du fils prodigue, la brebis perdue, etc. Et c'est l'autre, parmi les autres paraboles là, du chapitre 15e de Saint-Luc. Voilà, la brebis perdue, voilà, on va l'accueillir, etc. Mais celui qui a fait tout bien, qui est resté là, qui a tenu la maison, qui a aidé. Bon. Mais il y a un problème avec le fils aîné. C'est que, au fond, il s'est pensé seul. Il s'est pensé seul. Il s'est quelque part, même s'il ne l'a pas dit, il s'est pensé comme ouvrier. À quoi je vois ça? Je n'ai désobéi à aucun de tes ordres. Ça, c'est l'ouvrier, c'est le salarié. Le patron dit, le salarié, voilà, dans son métier, obéit. C'est la loi du travail habituelle. Et tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer. Pourquoi il n'a jamais donné un chevreau? Mais tout simplement parce qu'il n'a jamais demandé. Il ne s'est jamais senti fils. Il ne s'est jamais senti comme ce qui est au père est à lui. Même s'il n'a pas demandé sa part d'héritage, mais il sait que tôt ou tard, ça lui reviendra. Il ne s'est jamais senti de la maison. Il était dans une colère intérieure. Une colère intérieure que nous pouvons ressentir dans nos familles aussi, hein, face à des personnes qui ont nos frères, nos sœurs, nos cousins, oncles et tantes, etc., qui ont des attitudes voilà, qui parfois détruisent la famille, etc. Et du coup, nous qui avons tout bien fait, hein, on est dans ce jugement. Ton fils que voilà, c'est même pas mon frère, c'est ton fils que voilà, le tu qui tue. On ne fait plus partie de la même famille. Il n'y a plus de lien. C'est très grave, ça. C'est très grave. Il ne se sent plus dans la communion. Il s'excommunie. Quelque part, le péché de l'aîné est plus grave pour ça, parce que c'est un péché spirituel. Alors, voilà. Alors, bien sûr, on peut y voir les païens et les Israël, on peut y voir beaucoup de choses, etc. Tout mon enfant, tout ce qui est à moi est à toi, voilà. Il fallait festoyer, se réjouir. Voilà, c'est. Alors, est-ce qu'ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il est sorti de sa colère? Est-ce qu'il est sorti? On ne sait pas. Mais en tout cas, c'est intéressant qu'en nous, de prendre conscience qu'il y a les deux. La personne qui pense que loin de Dieu, ce sera mieux et que Dieu est une contrainte à mon agir, et celui qui est là et qui fait bien toutes les choses et qui voit quelque part qui est en colère parce que Dieu ne lui donne pas ce qu'il demande dans la prière, ou peut voir même des gens peut-être plus heureux à l'extérieur alors qu'ils sont loin de Dieu. Donc une forme de colère qui naît en nous. Alors on va demander au Seigneur de convertir ces deux formes de déviance, vous voyez, qui sont les tentations aussi de l'Exode. Qui sont les tentations de l'Exode, de revenir à l'esclavage ou de se rebeller contre Dieu. On va demander au Seigneur qu'il nous aide à nous apaiser intérieurement et que nous puissions avoir cette pleine assurance que sa miséricorde en nous fait toutes choses nouvelles. Amen.